Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Quand la campagne présidentielle française s'invite au Parlement européen, le discours d'Emmanuel Macron à Strasbourg pour lancer la présidence française de l'Union, qui a démarré le 1er janvier, a donné l'occasion à ses opposants de prendre la parole pour ferrailler avec lui. On entendra les échanges acides avec Yannick Jadot, avec Jordan Bardella du Rassemblement National ou encore François-Xavier Bellamy pour Les Républicains. Éric Zemmour, lui, avait choisi de se rendre à Calais pour parler de la crise migratoire en Europe. On l'entendra affirmer notamment que l'Europe n'est pas une nation. L'une des questions qui se pose ce soir, c'est jusqu'à quand le président Macron peut-il continuer à faire comme s'il n'était pas candidat? Souhaitez-vous qu'il se déclare rapidement? On vous a posé la question sur le compte Twitter CNews. Votre réponse est claire, oui, à 67%, non, 33%. En tout cas, le président Macron était agacé à la sortie de son grand oral par les questions franco-françaises des journalistes. Il a refusé de leur répondre. On le verra dans un instant. Et puis, ce qui est certain, c'est que ce sont deux visions bien différentes de l'Europe que l'on a pu entendre s'exprimer, notamment sur le sujet des frontières, de la gestion des flux migratoires. Faut-il construire des murs avec des barbelés aux frontières extérieures de l'Union, comme un certain nombre de pays le réclament déjà? On en débat ce soir. La grève des enseignants aura bien lieu demain. La manifestation parisienne a finalement été autorisée par la préfecture de police après une hésitation, puisque la demande avait été déposée hors délai. Les personnels de l'éducation réclament plus de moyens pour lutter contre le Covid-19 dans leurs établissements. Les contaminations repartent à la hausse avec un niveau record de plus de 460 000 cas avant-hier. Preuve que l'on n'est pas encore sorti de la pandémie. Le gouvernement veut prolonger le télétravail et la règle des 3 jours minimum par semaine pour au moins encore 15 jours. De son côté, pourtant, l'Angleterre, on voit Boris Johnson a décidé de lever pratiquement toutes les mesures de restriction. Plus de port du masque obligatoire, ni de passe sanitaire. Les mesures d'isolement en cas de cas contact seront supprimées en mars, annonce Boris Johnson, également pour les cas positifs. Enfin, on va revenir ce soir sur la mort tragique de l'acteur Gaspard Ulliel. Il avait 37 ans, acteur au talent exceptionnel. Il a été fauché par un autre skieur sur une piste bleue du domaine savoyard de la Rosière. Gueule d'ange du cinéma, il avait commencé notamment dans le film de Michel Blanc, Embrasser qui vous voudrait. Voilà, on va balayer tous ces grands titres de l'actualité avec nos invités. Jean-Claude Dacier est là, consultant CNews. Bonsoir Jean-Claude.
Bonsoir.
Éric Ciotti nous a rejoint. Bonsoir Monsieur Ciotti. Vous êtes conseiller auprès de Valérie Pécresse, l'un des piliers de sa campagne. Merci d'être avec nous. Alexandre Devecchio, consultant et rédacteur en chef adjoint au Figaro plutôt. Karim Zerebi est là, consultant CNews. On va tout de suite écouter le président Macron, un des temps forts politiques de la journée. Il est devant le Parlement européen à Strasbourg et on entendra ensuite les oppositions donner de la voix dans l'hémicycle. On écoute Emmanuel Macron.
Je suis né en 1977 et ma jeunesse fut celle de l'évidence européenne. Sur les terres ensanglantées du nord de la France, sur lesquelles j'ai grandi, l'Europe était la paix, comme une évidence, intangible. J'ai vécu ensuite, comme beaucoup d'entre vous ici, le grand doute européen, le référendum de 2005, l'accusation technocratique, le risque de dislocation face à la crise des dettes souveraines. Nos générations ont aujourd'hui à refonder notre Europe pour faire face à ces promesses de démocratie vivante, de progrès et de paix. Nous avons collectivement à nous donner les moyens de faire de notre Europe une puissance démocratique, culturelle et éducative, une puissance d'avenir, une puissance d'équilibre. Ni le retour au nationalisme, ni la dissolution de nos identités ne seront les réponses à ce monde qui advient. Mais notre capacité à inventer un rêve possible, à le rendre tangible, à le faire réalité, à le rendre utile à nos concitoyens.
Voilà, pour Emmanuel Macron, on en débat ce soir dans Punchline. C'est parti.
Europe 1, Punchline. Laurence Ferrari.
Et il est 18h, si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews et sur Europe 1, on va évoquer la situation politique, notamment avec vous Éric Ciotti, mais d'abord on va rendre hommage à Gaspard Ulliel, cet acteur français de 37 ans qui a été fauché sur une piste de ski à La Rosière. Retour sur cette carrière avec un acteur hors norme, avec Reda Emrabi.
Dès l'âge de 15 ans, Gaspard Ulliel apparaît au cinéma avec des petits rôles dans Le Pacte des loups et Embrasser qui vous voudrez. Il se retrouve propulsé en haut de l'affiche avec un rôle majeur dans Un long dimanche de fiançailles aux côtés d'Audrey Tautou.
Bah pourquoi tu pleures ?
Gaspard Ulliel pour Dans un long dimanche de fiançailles.
Pour cette performance, il reçoit un César de meilleur espoir masculin.
Bonsoir. Alors comme chaque année, j'étais incapable de préparer un discours à l'avance. Donc je vais faire très simple.
Tu ne vois pas.
Autre rôle marquant, celui d'Yves Saint-Laurent dans un des deux opus consacrés au grand couturier français.
Eh bien la planète, j'ai envie de l'habiller autrement maintenant.
Ça fait partie de ces rôles qu'un acteur ne croise que quelques fois dans une carrière et c'est vraiment pour moi un point de charnière dans ma vie, dans ma carrière, dans mon travail personnel, dans ma manière d'aborder mes personnages. Donc voilà, à ce jour c'est certainement le rôle de ma vie.
Les distinctions s'accumulent avec un autre César de meilleur acteur, cette fois-ci en 2017. Une consécration pour son rôle dans le long métrage de Xavier Dolan, Juste la fin du monde.
12 ans, et tout à coup, l'idée d'un déjeuner. Rattraper le temps perdu, non.
Récemment, on a pu le retrouver aux côtés d'Isabelle Huppert dans le film Eva. Si sa filmographie est riche, le public l'a aussi découvert comme égérie pour une célèbre marque de parfums. Une carrière aussi belle que fulgurante, Gaspard Ulliel est décédé à l'âge de 37 ans.
Éric Ciotti, un mot d'hommage à Gaspard Ulliel, cet acteur qui
beaucoup
a disparu.
Beaucoup de peine, beaucoup d'émotion. C'était un espoir, un talent déjà. Ce rôle extraordinaire d'Yves Saint-Laurent qui a marqué une jeune carrière, mais tellement prometteuse. C'est naturellement un drame terrifiant.
Olivier Benkemoun est avec nous, spécialiste cinéma de CNews. C'est un acteur que les Français ont vu grandir. Il a démarré très tôt, à l'âge de 11 ans, sous l'œil des caméras. Et on a eu l'impression de le voir évoluer au fil de ses rôles, Olivier.
C'est amusant parce que tous ceux qui réagissent disent c'est un jeune acteur, il a été fauché en pleine jeunesse, etc. C'est plus de 20 ans de carrière. Gaspard Ulliel, il a commencé très jeune, 11 ans. Il rentre dans la première agence. C'est une amie de sa mère qui ouvre une agence d'acteurs et voilà, il est pris dans. Vraiment, sa carrière commence. Disons, lorsqu'il a 18 ans, il va commencer avec Michel Blanc, Embrasser qui vous voulez, il va jouer comme ça dans des films, et on va le voir évoluer, on va le voir changer, on a ce visage d'enfant, quasiment, dans Embrasser qui vous voulez, et puis ça va évoluer, on va le voir un peu plus grand, dans Jacou le croquant, lorsqu'il remporte également son premier César en 2005, vous avez vu ces images, mais toujours cette gueule d'ange, toujours cette beauté incroyable qu'il a et qui dégage. Et puis on va le voir plus adulte, dans des rôles plus importants. Vous citiez Saint-Laurent, il me le disait en interview, ça a été le rôle de sa vie, mais il en a eu d'autres, des rôles de sa vie, Gaspard Ulliel. Et puis à chaque fois, ça a été un vrai travail à l'intérieur de lui-même, parce que les acteurs sont parfois des hommes et des femmes fragiles, des choses compliquées. Et pour Gaspard Ulliel, c'est un vrai travail intérieur et un vrai investissement, en particulier pour Saint-Laurent. Il fallait pas rater cette biographie. Ces deux parents, ce biopic, ces deux parents sont stylistes. Donc ils connaissaient très bien ce milieu. Alors, vous savez qu'à l'époque, il y a eu deux films. Il y a eu Yves Saint-Laurent avec Pierre Niney, puis il y a eu le Saint-Laurent de Bertrand Bonello, qui est moins réussi en salle que l'autre, mais qui a été remarqué par la profession. Ça lui a permis de décrocher un rôle chez Xavier Dolan, jeune réalisateur lui aussi canadien, mais de la même génération, et d'obtenir son deuxième César, le César de meilleur acteur. Quelle famille de cinéma ? Eh bien, il a embrassé toutes les familles de cinéma. Vous voyez sur les images, il a joué absolument avec tous les acteurs qui comptent en France. Plutôt des films d'auteur, d'ailleurs, des films importants, des films exigeants. Et c'est ce qu'on gardera en tête. On gardera son sourire, sa gueule d'ange, son intuition d'acteur, et puis sa beauté, son talent.
Merci beaucoup, Olivier Benkemoun. Et évidemment, toutes les chaînes vont lui rendre un hommage, spécialement dans le groupe Canal+, auquel appartient CNews. Pour évidemment retracer sa carrière extraordinaire. Un accident de ski, Jean-Claude Dacier, sur une piste bleue. Il est percuté de plein fouet par un autre skieur.
Vraiment, on a rage des circonstances de ce garçon talentueux, tellement jeune. Pour autant, on ne peut pas décréter que les pistes de ski dans nos stations sont dangereuses. Néanmoins, c'est vrai qu'on a tous vu des gens qui perdent le contrôle de leur vitesse et qui font n'importe quoi. Pour autant, je vois pas très bien ce qu'on pourrait faire et réglementer encore quelque part. Ça me paraît hors de portée. C'est dommage. Il y a des accidents. Je connais pas le bilan, donc je m'en tiendrai là. Je sais pas si on peut parler de dangerosité d'un certain nombre de stations de ski. Je ne le crois pas. Mais honnêtement, c'est vrai que mourir de cette façon à 37 ans sur une piste bleue percutée par un garçon qui vient aussi d'une piste bleue, je sais pas ce qui s'est passé. On saura ça ce soir et demain. C'est, on enrage. Franchement, c'est tellement désolant.
Carmine Zerbi, il y a une vraie émotion. Il y avait un personnage très authentique. Et puis, il y a cette vie fauchée à 37 ans sur une piste de ski.
Oui, on est toujours très ému de voir un homme de 37 ans perdre la vie. Et là, qui plus est, c'est une figure à la fois confirmée, mais aussi montante, toujours et encore, du cinéma français, qui disparaît. Quelqu'un qui marquait les esprits, d'abord parce que c'était un grand acteur, parce qu'il avait une authenticité, une simplicité, il avait une belle gueule, et il avait joué des rôles qui étaient marquants. Et on s'attendait à ce que sa carrière continue de se propulser et de monter au nom du cinéma français. Il avait des proposition aussi aux États-Unis, on le sait, il pouvait faire rayonner un autre pays par-delà nos frontières. On est très triste, on pense à sa famille, toutes les condoléances à ceux qui étaient proches de lui. Donc c'est tragique pour le cinéma français.
Alexandre Devecchio.
Oui, alors déjà, effectivement, une belle filmographie. Le film de Jeunet, Un long dimanche de fiançailles, Bonello, Yves Saint-Laurent, Xavier Dolan, Juste la fin du monde. Donc c'était déjà, en fait, une belle carrière. Mais c'est vrai qu'on gardera malgré tout l'image d'une jeunesse éternelle. Je sais pas si on peut aller jusqu'à la comparaison avec James Dean, mais le cinéma l'aura capturé peut-être au sommet de sa beauté, parce qu'il faut le dire, il était beau gosse aussi, il avait des beaux yeux, et ça peut pas me faire penser à, je disais peut-être pas James Dean, mais à quelqu'un comme Heath Ledger, qui était mort assez jeune, qui avait joué notamment le Joker dans The Dark Knight. Voilà, c'est une perte pour le cinéma français, parce que je pense qu'il avait un bel avenir, et en même temps, ça restera, voilà, la figure du jeune premier pour l'éternité.
Voilà pour cet hommage à Gaspard Ulliel, 37 ans, fauché donc sur une piste de ski en Savoie. On va revenir à l'actualité politique, évidemment, elle nous intéresse puisque la campagne présidentielle a bien démarré, elle a même tellement démarré qu'elle s'est déroulée dans l'hémicycle du Parlement européen, qui a priori n'est pas fait pour ça, qui parlait plus fait pour parler des enjeux européens. Mais là, le président Macron, évidemment, président de la République française et aussi président du Conseil de l'Union, s'est retrouvé face à ses opposants. Résumé de la journée avec Reda Emrabi.
Abattre la carte européenne sur fond d'élections présidentielles, c'était l'enjeu pour Emmanuel Macron à Strasbourg. S'opposer en rempart face aux plus eurosceptiques, en défendant notamment l'état de droit.
S'installe comme une idée au fond que pour être plus efficace, il faudrait revenir sur l'état de droit. La fin de l'état de droit, c'est le règne de l'arbitraire.
La stratégie du en même temps encore à l'œuvre, le progressisme en révisant la charte des droits fondamentaux.
Je souhaite que nous puissions actualiser cette charte, notamment pour être plus explicite sur la protection de l'environnement ou la reconnaissance du droit à l'avortement.
Le protectionnisme emportant une réforme de l'espace Schengen.
Construire au fond une politique plus efficace mais respectueuse de nos principes pour lutter contre l'immigration irrégulière.
La campagne présidentielle fait alors irruption lors de la séance de questions-réponses. Exemple avec Yannick Jadot.
Vous resterez dans l'histoire, monsieur le président de la République, le président de l'inaction climatique.
Jordan Bardella.
Monsieur le président de la République, comment pouvez-vous prétendre aujourd'hui en rassembleur en Europe, alors que vous aurez été jusqu'au bout le diviseur de la France?
Réponse brutale du chef de l'État.
Vous avez quand même, je dois le saluer, très méthodiquement dit n'importe quoi sur tous les textes européens que nous pouvions signer. Mais ça n'est pas en disant méthodiquement n'importe quoi, même si le n'importe quoi se tient, qu'on peut finir à la fin par dire des vérités.
Une séquence européenne avec plus que jamais en toile de fond la bataille présidentielle.
Éric Ciotti, est-ce que c'était un spectacle digne de l'Europe, ce que l'on vient d'entendre avec ses opposants qui jettent leurs banderilles sur le président de la République?
On a assisté à quoi? Au discours d'un président en campagne, c'est ça le problème. Naturellement, il y a des oppositions, et c'est normal dans une démocratie. Ce qui est choquant, c'est que la France, Emmanuel Macron, ait pris et capté un peu cette présidence au moment de la campagne électorale. Donc, naturellement, cette présidence sera affectée, elle sera affaiblie par la campagne électorale. Mais elle ne sert que de marchepied à Emmanuel Macron pour faire campagne. Il y a eu dans le passé un exemple en Allemagne. L'Allemagne avait proposé de décaler la prise de présidence du Conseil de l'Union européenne parce que il y avait une élection décisive. Là, on est à 3 mois du premier tour de l'élection décisive pour la France. Et bien entendu, on voit bien qu'il s'agit d'une stratégie de politique intérieure. Ces discours n'engagent en rien. Ils sont remplis de slogans, de paroles creuses, toujours bien écrites. Mais on en a tellement l'habitude, et je dirais, on en a un peu là, une forme de saturation d'écouter ces litanies de promesses, d'engagements qui ne portent aucune action concrète. On l'a vécu, donc c'est un discours de campagne, et il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des répliques de campagne. Et bien entendu, ce n'est pas le lieu, mais qui a introduit cette...
Les institutions, elles fonctionnent, non, Éric Ciotti.
Il aurait dû y avoir un décalage. Voilà, parce que cette présidence, elle ne fonctionnera pas, on le voit bien.
C'était beaucoup lui demander quand même de passer son tour. On peut reprocher beaucoup de choses à Macron, et on ne s'en prive pas la plupart du temps, mais on ne peut pas nier qu'il soit européen. Il a même des convictions qui, aux yeux de certains Français, de beaucoup de Français, apparaissent comme excessives. Il est fédéraliste. Bon, il pense que petit à petit, même s'il ne dit pas expressément, que petit à petit, les nations, tout en gardant un rôle, doivent quand même, quelque part, concéder un certain nombre de domaines importants, l'économie, la finance, j'en passe, la défense, pour confier ces responsabilités éminentes à une structure européenne extérieure. C'est pas moi ma position, mais il y a beaucoup de Français qui hésitent à passer ce pas et à dire on est plutôt sur une ligne qui est une Europe qui défend les nations et qui essaie de faire ensemble un certain nombre de choses. Simplement, pour autant, Monsieur Ciotti, et la performance de Monsieur Jadot et celle de Monsieur Bardella et celle de Manon Aubry,
de la France Insoumise,
se sont livrés à une espèce d'agression face à face avec le président. C'est vrai qu'ils n'auront plus beaucoup l'occasion de le voir. Qui fait que l'Europe méritait sans doute mieux que ce spectacle aujourd'hui.
Allez, on fait une petite pause. On continue à débattre de ce qui s'est passé au Parlement européen. On parlera des questions migratoires aussi, parce que c'est un des axes annoncés par Emmanuel Macron pour cette présidence de l'Europe. On se retrouve avec Éric Ciotti, Jean-Claude Dacier, Karim Zerbi, Alexandre Devecchio. À tout de suite sur Europe 1 et sur CNews.
Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
On se retrouve sur CNews et sur Europe 1 dans Punchline. On évoque le discours du président Macron. L'un des axes de ce qu'il a dit et de la présidence française de l'Union européenne sera la lutte contre les flux migratoires incontrôlés. Il veut réformer l'espace Schengen. On va écouter ce qu'il dit, puis je vous passe la parole ensuite, Éric Ciotti, puisque vous êtes notre invité ce soir.
Et la présidence française portera une réforme de l'espace Schengen qui est la condition du respect de sa promesse originelle d'un espace de libre circulation. Protéger nos frontières extérieures, y compris en élaborant une force intergouvernementale d'intervention rapide. Acter d'un accueil partagé, solidaire entre les États membres, comme nous l'avons fait entre 2018 et 2021. Bâtir les partenariats avec les pays d'origine et de transit pour lutter contre les réseaux de passeurs et rendre efficace notre politique de retour. Construire au fond une politique plus efficace, mais respectueuse de nos principes pour lutter contre l'immigration irrégulière.
J'imagine que vous êtes d'accord avec cette vision, Éric Ciotti. C'est ce que vous réclamez aussi. Rendre efficace la politique de retour.
Bien sûr, mais ce sont des paroles. On arrive au terme de ce quinquennat. On ne va pas réformer Schengen dans les 3 mois à venir. C'est un chantier qui nécessitera du temps. Et il y a des pays qui avancent aujourd'hui. Et si on protège mieux nos frontières, c'est
uniquement en construisant des murs,
du
c'est ça.
Fait de la volonté de certains pays qui protègent les frontières externes de l'Europe. C'est le cas de la Grèce aujourd'hui, avec le premier ministre grec de droite, Mitsotakis. C'est le cas de la Hongrie, avec Viktor Orban. C'est le cas de la Pologne, qui a été confrontée à l'agression de la Biélorussie. Et ces pays sont en train de se fédérer. D'ailleurs, ils ont écrit, il y a 12 pays de l'Union européenne qui ont écrit à la Commission et ils vont se réunir demain à Vilnius pour demander notamment qu'il y ait des barrières physiques, c'est-à-dire des murs, qui puissent être érigés. Donc il y a une révolte de ces pays frontaliers et la France est étrangère à cette démarche. Elle ne s'y associe pas même, elle la condamne. Donc il y a toujours ce « en même temps » qui est la marque finalement de ce pouvoir, des discours et des actes qui sont très différents. Monsieur Macron préside le Conseil, eh bien, il doit écouter l'appel de ces 12 pays.
Et donc financer la construction des murs,
c'est ça ? Il y a l'Autriche, absolument. Il y a la Pologne, il y a la Hongrie, il y a le Danemark, gouvernement social-démocrate, qui réclame aujourd'hui une nouvelle politique. J'étais avec Valérie Pécresse le week-end dernier en Grèce. On a vu comment, en quelques mois, le Premier ministre grec avait révolutionné la politique migratoire.
Alors, comment il
de
a
la
fait
Grèce, mais de l'Europe.
Eh bien, il construit des centres.
Il a construit aujourd'hui un centre,
un seul,
qui est un centre de rétention de 3000 places, un centre d'accueil des migrants, qui est un centre fermé, qui, notamment pour ceux qui se voient refuser le droit de bénéficier du statut noble de réfugié, sont placés dans un centre de rétention avant que Frontex ne procède à leur expulsion. Il y a eu jusqu'à 9000 migrants sur l'île de Samos qui arrivent. On voit la Turquie, on voit le drapeau turc en face, Samos, c'est à peine à 1 km, et on a les bateaux qui arrivent. Et aujourd'hui, il y a une action des forces grecques, mais aussi de Frontex, et c'est important, même si elle est insuffisante, mais elle est là. Elle existe, qui repousse c'est ce qu'ils appellent les push boats, les embarcations qui arrivent de la Turquie. Mmh. Aujourd'hui, dans ce camp, il y a 450 migrants. Donc, la volonté politique a fait diviser par 20 les entrées migratoires.
Et ça, on pourrait le faire sur le sol français ?
Il faut le faire sur les frontières externes. Et puis, il y a cette logique aussi du traitement de l'asile, du droit d'asile à la frontière. Là, Emmanuel Macron en a souvent parlé. Il a parlé des hotspots, de traiter les demandes d'asile hors de l'Europe ou à la frontière externe de l'Europe. C'est ça la solution. La solution sur les flux migratoires, c'est ne pas laisser rentrer avec Frontex. Frontex devait recruter 10 000 personnes supplémentaires. On en est aujourd'hui à 600. On a vu le directeur qui était là, 600 à peine en catégorie 1. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de marge. Mais ce qui est fait entre la Grèce et la Turquie doit être fait entre l'Italie et la Tunisie, à Lampedusa, doit être
entre
fait
l'Espagne.
En Espagne aussi. Ce sont des ports d'entrée. Et on voit bien que l'Italie ou l'Espagne, avec des gouvernements beaucoup plus à gauche, aujourd'hui, en gros, considère qu'il faut laisser rentrer les migrants pour qu'ils passent le plus vite possible vers la France ou vers la Grande-Bretagne. Donc la réalité, elle est là. Il faut une volonté, traiter l'asile à la frontière, repousser avec des conditions humaines. Parce que ce qui est important aussi, ce qui se passe en Grèce, c'est que le camp où il y avait 9000 personnes, on l'a visité. C'était d'une indignité totale, d'une inhumanité absolue. Là, on a un camp qui réserve un accueil très, très digne pour ces migrants. Il y a des sanitaires, il y a des logements qui sont aux normes de confort, il y a un stade, il y a une école, il y a un accueil qui est digne, mais qui est ferme. Et j'ai toujours défendu, moi, cette alliance de la fermeté et de l'humanité. C'est ça
plus
qui doit nous conduire.
Beaucoup de la fermeté, quand
oui,
même.
Oui, la fermeté, c'est alors la primauté à l'humanité. Parce vous que si raison. si on laisse les frontières ouvertes, on laisse prospérer le commerce des passeurs. Et c'est ce commerce qui nourrit les naufrages, les drames et donc les morts en Méditerranée ou dans la Manche.
On ouvre le débat. Alexandre Devecchio, je vous ai vu réagir pendant ce que vous avez dit.
Je réagis à la fois parce que je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit, avec le diagnostic. Ça rejoint ce que je disais par ailleurs tout à l'heure sur le fait qu'avec de la volonté de politique, en construisant des centres de rétention, on peut régler cette question migratoire. Mais Éric Ciotti a parlé de en même temps macroniste. Je le rejoins là-dessus aussi. Mais je peux me demander si sur la question européenne, il n'y a pas aussi un en même temps DLR. D'une part, depuis Maastricht, ils ont voté à peu près tous les traités. En 2005, Nicolas Sarkozy est revenu sur le nom français, sur le référendum constitutionnel. Donc ça n'incite pas forcément à la confiance. Et vous avez toujours été très clair là-dessus. Mais est-ce que, vous avez dit tout à l'heure, aujourd'hui, on a des pays européens qui construisent des murs et finalement, il faudrait les soutenir et sans doute peut-être faire pareil, parce qu'il y a Frontex, mais tout ça va prendre du temps. Que vous avez dit, les gouvernements socialistes en Espagne ou en Italie n'ont pas forcément envie, eux, de... Il y a des gens qui rentrent quand même parce qu'eux n'ont pas forcément envie de mettre en place ces hotspots à la frontière. Donc, il y a un moment donné où la France va devoir faire, finalement, comme ces pays polonais, etc., enfin, tous les pays qui ont décidé de reprendre le contrôle de leurs frontières, dans un système de subsidiarité qui n'est d'ailleurs pas contraire à l'esprit européen. Est-ce que vous nous garantissez que Valérie Pécresse est sur la même ligne et qu'elle reprendra le contrôle des frontières, ou est-ce qu'elle va tenter de négocier pendant des années avec la Commission européenne ?
Je crois que c'est assez clair. Vous avez écouté son discours en Grèce. Elle a parlé de cette nécessité dans la lettre des 12 États membres de l'Union européenne. Il était demandé de financer des barrières physiques. Valérie Pécresse a repris son expression, elle a parlé de murs, pour qu'on oriente simplement les portes d'entrée sur ce qu'on appelle les points de passage autorisés.
Des murs faits avec l'Europe pour ce qui est des frontières françaises. Parce que avant que les 27 se mettent d'accord pour mettre des murs, vous savez très bien que ça va être compliqué.
Je parle des frontières externes. Ensuite, je suis favorable à ce qu'on rétablisse, c'est le cas d'ailleurs aujourd'hui. Il faut bien le dire, je suis élu d'un département frontalier qui est la principale porte d'entrée depuis l'Italie, à Menton notamment, de migrants. On est allé jusqu'à quelques jours, il y a eu 300 interpellations par jour dans des périodes de pic migratoire, mais en moyenne, c'est chaque jour aujourd'hui autour de 100 interpellations à Menton. Donc il y a ces contrôles depuis notamment le 13 novembre 2015. Donc c'est possible dans les traités, ça existe. La crise sanitaire l'a montré aussi. Donc, nous sommes naturellement pour ces contrôles. Il faut qu'ils soient maintenus. Ils sont à titre dérogatoire. Il faut qu'ils soient pérennisés. Moi, je crois aux frontières. Je crois à la libre circulation. Mais la libre circulation n'a de sens que s'il y a des contrôles aux frontières. Mais la solution, elle sera aux frontières externes. Parce que dès qu'un migrant et déjà mis un pied sur le sol européen, j'ai presque tendance à dire que c'est déjà une partie est perdue. Parce qu'ensuite, on a toute la problématique du retour, et là, on est dans une naïveté extraordinaire. Il faudra rétablir le délit de séjour illégal. Il faudra revenir sur les procédures de rétention. Aujourd'hui, quand un policier interpelle un migrant, quand il y a une procédure, quand une juridiction administrative dit que une personne ne peut pas être demandeur d'asile.
Elle doit se présenter d'elle.
Voilà. Regardez le parcours d'un demandeur d'asile. C'est déjà, il peut venir, il peut demander l'asile à n'importe quel moment, même s'il est rentré un an avant illégalement. Il passe devant l'OFPRA, qui
c'est la France, c'est pas seulement
rejette
l'Europe. Hein.
Oui. Mais ça veut dire que c'est pour ça que ce parcours, il faut le régler avant. Parce qu'aujourd'hui, en France, il est d'une complexité absolue. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas le simplifier. Nous
mais
avons des mesures
très fortes. Il faudra le simplifier en France, parce qu'à 27, vous allez avoir du mal à édicter des règles
dans notre programme. Mais il faut faire tout parallèlement. La protection extérieure, parce que c'est une partie qui se gagne. Et puis aussi, aller vers les expulsions beaucoup plus rapides dans notre pays. Arrêter que l'asile... L'asile, c'est extraordinaire. C'est à accorder le statut de réfugié à ceux qui sont opprimés. Aujourd'hui, c'est devenu la porte d'entrée légale pour l'immigration illégale. Les deux tiers des demandeurs d'asile voient leur demande rejetée. Et dans des conditions un peu particulières, j'ai échangé récemment avec un magistrat de la Cour nationale du droit d'asile qui m'évoquait la multitude de fraudes à l'asile aujourd'hui, qui permet à des personnes qui ne sont pas des réfugiés de se maintenir dans notre pays, de violer finalement ce principe tellement noble de l'asile. Donc il faut arrêter avec la naïveté. Il faut que ceux qui arrivent de pays sûrs, notamment, je pense en particulier de l'Albanie, où aujourd'hui il n'y a plus de nécessité d'avoir un visa, de ceux qui arrivent de Géorgie. Ce sont des gros flots de demandeurs d'asile. On les place tout de suite dans des centres de rétention, qu'on examine leur demande d'asile
en quelques heures
ou en quelques jours, et que là, on puisse les reconduire vers leur pays. Voilà, ce sont des mesures
précises. Ils font de la reconduction ?
Ils font de la reconduction, bien sûr.
Alors, et avec efficacité. Vous vouliez intervenir ?
Non, mais Éric Ciotti, on parle souvent de ces questions sur le sujet des flux migratoires à venir. C'est très bien, c'est intéressant, parce que ça nous dit effectivement ce que vous ferez pour les freiner ou les réguler mieux qu'on ne le fait. Moi, je voudrais qu'on parle de la situation à l'instant T dans notre pays. On a une double problématique, et je crois que vous le reconnaissez vous-même, et j'aimerais que vous nous donniez les solutions si demain vous êtes aux responsabilités. Un, l'immigration légale. Comment on fait pour favoriser une intégration républicaine plus forte que ce qu'elle est aujourd'hui? On a évoqué tout à l'heure, avant que vous arriviez sur le plateau, les 600 heures d'apprentissage de la langue obligatoire en Allemagne, établies par des institutions étatiques, à contrario des 200 heures non obligatoires en France, dispensées par des associations. Que ferez-vous pour favoriser l'intégration de l'immigration légale, puisque vous n'êtes pas pour l'immigration zéro avec Valérie Pécresse, vous êtes pour des quotas migratoires. Deuxièmement, que ferez-vous sur l'immigration clandestine ? Par plusieurs centaines de milliers de personnes, hein, donc on n'arrive pas à ériger un chiffre, mais on dit entre 500 et 800 000, allons-y, 1 million. Comment faites-vous pour mettre en place des reconduites dans le pays d'origine, tout en sachant les difficultés que tous les gouvernements, celui de Nicolas Sarkozy y compris, François Hollande, Emmanuel Macron avec Gérard Darmanin qui a fait le tour des pays du Maghreb, sans aucune réponse.
Avec des migrants Karim dont les enfants sont scolarisés en France, c'est ça que vous dites. Alors, la difficulté d'expulser
tout, ces... Tout type, parce qu'il y a effectivement des migrants qui, en situation régulière, ont eu des enfants, installent une famille. Il y a des hommes seuls qui ont franchi traversée la Méditerranée et qui sont en situation d'errance, sans papier, sans travail, parce que leur statut ne le permet pas. Et c'est vrai que bon nombre de nos compatriotes, quelle que soit leur sensibilité politique, ne comprennent pas pourquoi quelqu'un qui passe à travers les mailles de la loi républicaine n'est pas reconduit dans son pays d'origine. D'autant plus que ça crée un trouble sur l'immigration légale.
Absolument.
Qui respecte le pays, qui paie des impôts, qui est utile à notre développement. Donc, fait une confusion. Comment faites-vous pour traiter ces deux sujets, alors, aujourd'hui et maintenant ?
Je vais vous répondre. D'abord sur l'immigration légale et sur l'exigence impérieuse d'assimiler. Vous avez parlé d'intégrer. Moi, je dirais d'assimiler les étrangers qui sont sur notre territoire, qui souhaitent vivre en France durablement, aux valeurs de notre nation. D'abord, je pense qu'on ne peut pas assimiler un nombre aussi important tel qu'on le connaît depuis le début de ce quinquennat. Il faut savoir que sous Emmanuel Macron, on a battu des records migratoires. Jamais un président de la République, en tout cas depuis 40 ans, n'avait vu accueillir sous son mandat autant d'immigrés en situation légale.
Et l'Allemagne fait 5 fois plus que nous à arriver à intégrer.
Je parle de la France.
Non, mais justement,
je parle de la France.
Où ils arrivent à intégrer ou non ?
En tout cas, sur les demandeurs d'asile, on était très loin, on était le 3 ou 4e pays il y a 15 ans. On est aujourd'hui le 2e pays au monde en matière d'accueil des demandeurs d'asile. Donc, il faut limiter les flux. Parce qu'il faut dire la vérité, on ne peut pas intégrer et ou assimiler près de 450 000 personnes qui arrivent en situation légale dans notre pays.
Ceux qui sont là, Éric Ciotti.
On aura les
parle de ceux qui sont là.
Oui, mais aujourd'hui, ils sont là. On aura les chiffres de 2021 en quelques jours, demain ou après-demain. 2020, c'était une année à part parce qu'il y avait le Covid, donc on avait des frontières, il n'y avait plus de vols, tout était fermé, donc les chiffres ont baissé un peu, mais pas en proportion de la fermeture. La dernière référence, c'est 2019. Nous avons 132 000 demandeurs d'asile sont arrivés en France. Nous avons 270 000 titres de séjour qui ont été délivrés avec deux volets essentiels, l'immigration familiale, 90 000, un peu plus de 90 000, 92 000 personnes, et l'immigration universitaire, qui a doublé en 10 ans. Voilà. Donc, il y a cette réalité auquel on rajoute environ 40 000 mineurs.
Mais comment vous intégrez, vous me répondez
40
pas.
000 mineurs isolés.
Vous me donnez des chiffres. Comment on intègre ceux qui sont en situation légale? Comment on reconduit les
clandestins? Il faut qu'il en rentre moins parce qu'on ne peut pas, je vous dis, on ne peut pas
ceux qui sont
intégrer
là,
450 000 personnes. Ensuite, il y a un immense travail d'intégration, d'assimilation. Il y a une erreur tragique qui a été faite. l'enseignement des langues et des cultures d'origine. L'enseignement, notamment, privilégié de l'arabe dans les écoles primaires ou dans les collèges. Quand on arrive en France, la priorité, c'est pour moi d'enseigner le français. Et ça, il faut arrêter, ce gouvernement l'avait dit, ils ne l'ont pas fait, d'arrêter ce qu'on appelle les ELCO, les enseignements des langues et des cultures d'origine.
Pour vous, c'est le problème, ça, d'intégration.
Ça fait partie des problèmes. Mais l'école doit jouer un rôle majeur qu'elle ne joue pas aujourd'hui dans l'assimilation aux valeurs de la République. Mais tant qu'on aura des flux aussi importants, on aura ces problèmes. Donc il faut remodeler, il faut donner de la priorité. L'Office français de l'intégration, l'OFI, doit avoir des moyens. Il faut que l'école de la République ait aussi ses moyens. Et puis qu'il faut que l'on choisisse. C'est pour ça que l'on propose des quotas. Quand on dit qu'il faut des quotas pour rentrer, parce que nous, on n'est pas aux responsabilités aujourd'hui. Je vous dis ce qu'on va proposer.
Vous avez pas dit comment on expulsait.
Avec Valérie Pécresse. Deuxième volet.
Pause. On va faire une pause et je vous passe la parole
les dans un expulsions, instant. C'est voilà, aussi important.
On reprendra bien sur sûr ce sujet précis.
On va revenir sur les expulsions.
Des émigrés qui sont sur le sol français. A tout de suite dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews.
Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec Éric Ciotti, Karem Zerébi, Alexandre Devecchio du Figaro et Jean-Claude Dacier. La réponse à la question que vous posez Karem Zerébi, Éric Ciotti, comment vous faites pour les clandestins qui sont sur notre sol, qui y sont installés depuis parfois des semaines, des mois, voire des années? Comment vous faites pour les expulser? Emmanuel Macron a tenté de réduire le nombre de visas accordés aux ressortissants algériens, marocains ou tunisiens. Ça n'a pas fonctionné. Est-ce qu'il faut faire autre chose?
Suppression de la circulaire Valls sur les régularisations.
Ça, c'est pour ceux qui
Réinstauration du délit de séjour illégal qui permet le placement en garde à vue. Doublement du nombre de places dans les centres de rétention. Aujourd'hui, il y a officiellement 1800 places dans les centres de rétention. À peine 1300 sont opérationnels. Nous proposons de doubler le nombre de places des centres de rétention. C'est chiffré, on y travaille. J'ai encore travaillé cet après-midi dans pour le projet de Valérie Pécresse qui permettra notamment de faire en sorte que les étrangers qui sortent de prison et qui sont en situation irrégulière soient immédiatement placés dans des centres de rétention en vue de leur expulsion. Troisième volet, une action diplomatique très importante. Ce qui aujourd'hui fait obstacle, notamment aux expulsions, c'est le refus des pays d'origine de délivrer ce qu'on appelle des laissez-passer consulaires. Là, il faudra qu'il y ait une volonté politique. Je parlais tout à l'heure de la volonté politique du gouvernement, du nouveau gouvernement de droite de la Grèce. Ça veut dire que sur ces pays, je pense à la Tunisie, je pense au Maroc, je pense à l'Algérie, mais la Côte d'Ivoire aussi. Côte d'Ivoire, c'est aujourd'hui un des troisièmes pays, selon les années, en termes de demandeurs d'asile. Côte d'Ivoire est un pays démocratique. Donc, on n'a aucune raison de donner, et d'ailleurs, c'est quasiment systématiquement refusé, aux ressortissants de la Côte d'Ivoire, l'asile. Donc, il faudra qu'on ait on a des actions de coopération, d'aide au développement avec ces pays extrêmement forts. Donc, il faut faire une pression sur le maintien de cette aide au développement. Il faut aussi... Ça a été annoncé par le gouvernement actuel et j'approuve cette annonce, mais elle n'a été suivie d'aucune action concrète. C'est qu'il faudra conditionner l'octroi des visas en provenance de ces pays, notamment, je pense à l'Algérie ou à la Tunisie, en contrepartie de la délivrance des laissez-passer consulaires.
C'est le cas, c'est ce qu'essaye de faire Gérald Darmanin.
Mais ça n'a pas été fait.
Ça ne marche pas.
Ça ne fonctionne pas. Il faut de la volonté. Il faudra que...
Il n'en a pas.
Ce sont les mêmes propositions que le gouvernement actuel et ceux qui vous ont précédé.
Ce ne sont pas les mêmes propositions. Quand je dis qu'il faut rétablir le délit de séjour illégal, c'est la clé.
Non, mais aujourd'hui, les pays d'origine, vous accepterez de les récupérer.
Ça a été supprimé par Manuel Valls. Moi, j'ai défendu à plusieurs reprises à l'Assemblée nationale des amendements pour rétablir le caractère délictuel du séjour illégal. Ça a toujours été refusé par le gouvernement actuel. Le placement en centre de rétention, et il a fallu qu'il y ait le drame de Marseille, l'attentat terroriste où il y a eu cet assassinat à Gare Saint-Charles de ces deux jeunes filles de la part d'un étranger en situation irrégulière qui aurait dû être en rétention pour qu'on se saisisse un peu de ce problème. Jusque-là, les centres de rétention étaient vides. Donc, il y a des solutions concrètes, mais il faut une volonté.
Pour que les pays d'origine, jusqu'où ce sont des pays amis
ou avec l'Algérie, des pays avec lesquels on a des relations compliquées. Jusqu'où seriez-vous prêt à aller ? Votre camarade, ami Zemmour, est prêt à aller très très loin. Vous aussi ?
Très loin. Il faudra que le président de la République aille voir le président tunisien, ou l'invite, ou le roi du Maroc, en disant aujourd'hui, ben, on change de politique.
Vous allez jusqu'à démanteler les accords d'Évian, qui sont très favorables justement aux gens qui souhaitent venir
personnellement.
C'est ce que souhaite Éric Zemmour.
Personnellement, hein. Dans la campagne du Congrès, j'avais porté cette proposition.
Ça a été repris par Valérie Pécresse ou pas ?
Nous verrons là-dessus.
C'est pas sûr.
Mais en tout cas, il faut... Parce que nous sommes dans une anomalie avec ce qu'on appelle ces certificats de résidence administrative. C'est pas des titres de séjour pour les Algériens, puisque c'est les accords d'Évian de 62, mais aussi c'est la convention surtout de 68. Je crois qu'il faut qu'on revisite cette convention. En tout cas, je plaiderai dans ce sens.
On va écouter juste Éric Zemmour, qui lui avait choisi Calais pour faire un contre-discours à celui d'Emmanuel Macron. Il parle, lui, de l'Europe. L'Europe qui n'est pas une nation, selon lui. Écoutez-le.
La réalité, c'est que contrairement à ce que croit Emmanuel Macron, l'Europe n'est pas une nation. J'ai noté dans son discours qu'il, pour évoquer les deux guerres mondiales du XXe siècle, il parle des guerres civiles de l'Europe. Comme si l'Europe était une nation et que l'affrontement entre la France, l'Allemagne, l'Angleterre n'était qu'une guerre civile. Emmanuel Macron se trompe. Les nations existent. Les nations sont la réalité de l'Europe. Elles sont même l'expression de son génie, car l'État-nation est une invention européenne, et plus particulièrement une invention de la France et de l'Angleterre.
Voilà pour Éric Zemmour. On va rejoindre à Calais Gauthier Lebret, notre journaliste, avec Sacha Robin. Gauthier, il y a eu une fin de déplacement assez mouvementée pour Éric Zemmour à Calais, c'est cela ?
Fin de déplacement mouvementé pour Éric Zemmour ici à Calais. Un déplacement écourté ou plutôt terminé sans la presse. Il n'y aura pas d'images filmées par nos caméras et bien d'Éric Zemmour sur des points où se trouvent des migrants, des clandestins. Et pourquoi ce déplacement a été mouvementé ? Eh bien, lorsqu'Éric Zemmour a échangé dans le restaurant derrière moi avec des membres des forces de l'ordre, une trentaine de manifestants se sont rassemblés pour protester contre sa présence et pour lui reprocher la condamnation de cette semaine. Et les équipes d'Éric Zemmour soupçonnent un journaliste d'avoir informer les manifestants. Après, on a pu échanger avec ces manifestants hors caméra et effectivement, ils ont reconnu que c'est bien un journaliste qui les a informés du lieu où se trouvait Éric Zemmour et qui l'ont pisté tout au long de cette journée. Alors, un peu plus tôt dans la journée, Éric Zemmour était au port de Calais où il a échangé avec le patron du port et un peu plus tôt encore, il était à l'endroit où se trouvait l'ancienne jungle de Calais et c'est là qu'il a fait son fameux discours, sa réponse directe à Emmanuel Macron après son discours de Strasbourg. Il lui a reproché un discours déconnecté, le discours d'un ancien élève de l'ENA.
Éric Ciotti, est-ce que le symbole de Calais est un symbole important dans la lutte contre l'immigration illégale ?
Pas forcément, c'est pas là que ça se joue, je le disais tout à l'heure. Calais, c'est un point de passage vers la Grande-Bretagne. Ce qui se joue en matière migratoire, c'est aux frontières externes de l'Europe. Pour moi, l'Europe, c'est une civilisation. On était à Athènes, nous avons ses origines. L'Europe, c'est la civilisation gréco-romaine, c'est la civilisation, ce sont nos racines chrétiennes, ce sont les Lumières. C'est une civilisation, mais là où je le dis aussi, ce n'est pas une nation. Voilà, moi je crois aux États-nations. Je suis opposé à une Europe qui effacerait nos identités, nos racines, ce que nous sommes, notre histoire. C'est un peu la vision d'Emmanuel Macron. Et l'affaire du drapeau sous l'Arc de Triomphe, qui a été souvent... Valérie Pécresse a dit des choses, elle a été attaquée pour cela. Mais on était finalement un peu dans ce que nous voulons faire et dans la différence avec les autres. Pour Emmanuel Macron, c'était que... le drapeau européen. Pour nous, c'était le drapeau européen et le drapeau français. Comme l'avait fait Nicolas Sarkozy lorsqu'il avait présidé l'Union européenne. C'était ça. C'est nous n'effaçons pas la France. Nous sommes européens. L'Europe peut porter des projets
projets concrets, je pense à l'Europe de l'espace. Il faut avancer sur certains sujets où aujourd'hui le bon périmètre c'est l'Europe, mais pas une Europe qui abolit notre histoire, qui efface notre identité, nos racines, nos cultures, nos nations.
Alors, Alexandre Devecchio, et après Jean-Claude.
Là encore, je crois volontiers Eric Ciotti, d'autant plus qu'il est sur ces positions-là de manière constante. Maintenant, je note en tant qu'analyste que pour ce qui est de la droite, LR dans son ensemble, c'est beaucoup plus ambigu. Il faut rappeler l'histoire. D'ailleurs, elle est alliée avec des centristes qui ont une vision, à mon avis, pas très éloignée de celle d'Emmanuel Macron. Du reste, ils ont voté petit à petit tous les traités, toutes les mesures qui ont permis à l'Europe d'être non pas tout à fait un État fédéral, non pas une confédération, c'est-à-dire une Europe des nations, mais un espèce de machin, comme dirait le général de Gaulle, supranational, où des fonctionnaires, une commission... pondent un certain nombre de normes qui ensuite sont traduites dans les parlements nationaux. Est-ce que la droite a vraiment la volonté de bousculer tout cela? Je dois vous dire, Éric Ciotti, que je n'y crois pas totalement, puisque je suis un peu échaudé par voilà des années où elle a accepté cette construction européenne dont on paye aujourd'hui les conséquences.
Alors, réponse, et après Jean-Claude.
Nous avons la conviction qu'il faudra réformer cette construction. Ce n'est pas une option, c'est une obligation, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que l'Europe a atteint ses limites. Et moi, je veux porter aussi cette voix, si on ne veut pas de nouveau Brexit, qui est le constat d'un extraordinaire échec de l'Europe, quand même. Je ne ferai pas de procès en responsabilité, mais c'est le constat que quelque chose n'a pas fonctionné, d'avoir laissé partir la Grande-Bretagne, cette nation qui est la première puissance militaire avec la France, qui était la première puissance de l'Union européenne, qui reste une puissance militaire, un allié important, puissant. C'est une faute.
Une question très
concrète. Il y a des responsabilités britanniques, bien sûr. Mais en tout cas... Moi, je ne veux pas demain qu'on ait ce débat ailleurs. Donc, pour cela, sur les questions migratoires, sur les questions économiques aussi, voilà, on a aujourd'hui, je prends un exemple, le débat sur les prix prix de l'électricité. On est sous le coup de la directive énergie qui fixe, qui impose que la tarification électrique, elle soit de l'électricité, elle soit notamment basée sur un mix énergétique où il y a du gaz. Alors que si nous avions une politique tarifaire nationale, alors qu'on a une souveraineté de production de l'électricité grâce au nucléaire voulu par le général
justement
de Gaulle, on aurait un prix beaucoup plus faible.
Je vous coupe parce que là, des choses vont être décidées sur la taxonomie européenne.
Absolument.
Il
faut modifier cette taxonomie.
Oui, qui peuvent apparaître d'un côté une bonne chose pour la France, puisque l'Europe semble accepter finalement...
Enfin, le nucléaire.
Oui, mais il va y avoir des contreparties, des contrôles de l'Union européenne. Est-ce que c'est pas un jeu de dupes en quelque sorte? Effectivement, l'Europe accepte de considérer le nucléaire comme une énergie verte, mais en échange, l'Allemagne va pouvoir aller voir ce qu'on fait dans nos centrales nucléaires, comment ça fonctionne, etc. Est-ce que finalement, c'est pas un abandon de souveraineté déguisé? Est-ce que c'est une vraie victoire de Macron? Ça, c'est une question concrète. Et la deuxième, c'est sur Olaf Scholz, le nouveau chancelier allemand, qui dit lui, moi, je suis pour un grand saut fédéral. Et je suis, par exemple, sur toutes les questions liées aux affaires étrangères, à la politique diplomatique, faire qu'on arrête l'unanimité et qu'on passe à la majorité, ce qui mettrait en minorité la France. Là, concrètement, que va dire Valérie Pécresse face au chancelier? Pardon, je vous ai posé deux questions.
Oui, on fait la première déjà.
Deux, j'aimerais bien.
Je crois que l'intérêt du temps à venir, c'est justement d'avoir une présidente de la République qui retrouve de la crédibilité. Emmanuel Macron s'est beaucoup discrédité en Europe. D'abord, il n'a pas réussi à mettre de l'ordre en France, y compris dans les comptes. On est parmi les plus mauvais élèves de l'Europe en matière budgétaire, en matière de dette, en matière de dépenses publiques, en matière d'impôts, en matière de déficits commerciaux. Malgré la communication outrancière du gouvernement, on est quasiment le plus mauvais élève de la classe économique, donc le plus mal placé pour donner des leçons à tous les pays d'Europe, avec une forme d'arrogance qui a été la condition de l'impuissance.
Mettre chez soi.
Le préalable, c'est être fort en France pour porter une voix qui soit à nouveau écoutée. Aujourd'hui, les pays qui sont écoutés, c'est l'Allemagne avec le Benelux, ce qu'on appelle les pays frugaux.
C'est vrai, c'est la stratégie française d'être le bon élève. en pensant que l'Allemagne va faire des concessions, ça n'a pas été le cas.
On a perdu de l'influence, donc il faut retrouver cette influence. Il faut aussi s'appuyer sans doute sur d'autres pays, l'axe franco-allemand, tel qu'on l'a connu, doit être sans doute revisité. En tout cas, personnellement, je le dis, il y a des nouveaux pays qui montent en puissance, des pays qui ont été un peu marginalisés, qu'il faudra écouter, sur lesquels il faudra s'appuyer. Je suis contre la fin de l'unanimité, je suis contre le fédéralisme. Et sur l'énergie, je pense que ça sera le chantier prioritaire du nouveau président de la République. Il faut qu'on retrouve notre souveraineté énergétique, notre souveraineté tarifaire. Aujourd'hui, on est en train de détruire EDF parce qu'on est soumis à cette tarification et à cette libre concurrence qui impose, ce qui est une folie absolue. On impose à EDF de vendre à ses concurrents qui n'ont pas participé à la construction des centrales nucléaires de l'électricité qui est achetée 160 euros le térawattheure et qui va être vendue aux concurrents d'EDF de façon obligatoire 42 euros. Ça, à la charge du contribuable.
Donc, il faut revoir l'ouverture à la concurrence.
Une dernière question, Jean-Claude, peut-être. Une dernière question,
un petit mot peut-être, rapidement, si on cherche bien en faveur de l'Europe. Le président de la République, en tout cas dans son discours de ce matin, a mis au bilan positif de l'Europe la politique sanitaire, les vaccins et, c'est peut-être le plus important, eu égard à la situation économique, je partage votre jugement, néanmoins l'argent est venu. Par milliards et milliards, un jour ou l'autre, on peut en rembourser.
On pourra les rembourser.
En attendant, l'Europe et la Banque Centrale Européenne a ouvert les vannes et nous a permis quand même de maintenir la tête hors de l'eau. Est-ce que vous, au moins, vous êtes d'accord sur l'aspect relativement positif de l'Europe sur ces deux points?
Il reste peu de temps, Eric.
Absolument, sur cette politique monétaire. si nous avons traversé cette crise de façon qui a sauvé les entreprises, c'est dû à la politique de Mario Draghi. Ce que n'avait pas bénéficié Nicolas Sarkozy au temps de la crise de 2009, parce que nous devions gérer des contraintes beaucoup plus fortes. Donc c'est cette politique qui l'a autorisé, mais aujourd'hui, on se rend compte aujourd'hui, pour la première fois, les taux d'intérêt sont devenus positifs sur les obligations en Allemagne.
Ça veut dire que
les taux d'intérêt vont augmenter, parce que l'inflation est de retour. Et ça veut dire que là, pèse sur nous, alors que nous avons 3 000 milliards d'euros de dette, une hypothèque considérable. Il y a 15 ans, le niveau de la dette française était à peu près au niveau de la dette allemande. Aujourd'hui, il y a 40 points d'écart.
Allez, merci
c'est
beaucoup.
Ça le bilan d'Emmanuel
Eric
Macron.
Éric Ciotti d'être venu ce soir dans Punchline, Alexandre Devecchio, Karim Zeribi et Jean-Claude Dacier. On se retrouve dans un instant sur Europe 1 pour les débats de Punchline, la suite. Et sur CNews, c'est Christine Kelly et ses invités pour Face à l'Info. Bonne soirée sur nos deux antennes.
Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari.
On se retrouve dans Punchline avec nos débatteurs. Nous sommes avec Jeannette Bograbe, bonsoir, essayiste. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Louis de Ragnel, journaliste politique, chef du service politique d'Europe 1.
Bonsoir Laurence.
Oui, et Bruno Jeudy, rédacteur en chef à Paris Match.
Bonsoir Laurence.
J'ai tout dit, oui, tout bien dit. On va parler de cette journée qui devait être celle de l'Europe, puisque c'était le grand discours d'Emmanuel Macron devant le Parlement européen à Strasbourg pour inaugurer la présidence française de l'Europe. Et puis patatras, en fait, on a beaucoup parlé de présidentielle française, puisque les opposants, notamment Yannick Jadot, il y a Gérard Bardella, il y avait Manon Aubry, qui ont en fait beaucoup parlé de la présidentielle française, qui intéressait moyennement les députés européens. On va commencer par écouter Emmanuel Macron, qui souhaite construire un nouvel ordre de sécurité.
L'Europe doit enfin construire un ordre de sécurité collective sur notre continent. La sécurité de notre continent nécessite un réarmement stratégique de notre Europe, comme puissance de paix et d'équilibre, en particulier dans le dialogue avec la Russie. Ce dialogue, je le défends depuis plusieurs années. Il n'est pas une option, parce que tout à la fois notre histoire et notre géographie sont têtues. À la fois pour nous-mêmes comme pour la Russie, pour la sécurité de notre continent qui est indivisible, nous avons besoin de ce dialogue. Nous devons, nous, Européens, poser collectivement nos propres exigences et nous mettre en mesure de les faire respecter. Un dialogue franc, exigeant face aux déstabilisations, aux ingérences, aux manipulations. Ce qu'il nous faut bâtir, c'est un ordre européen fondé sur des principes et des règles auxquels nous nous sommes rangés et que nous avons acté non pas contre ni sans,
mais avec la Russie il y a maintenant 30 ans.
Voilà pour le discours du président Macron qui se place à un certain niveau, Bruno Jeudy. On parle de géopolitique, on parle de relations avec la Russie. Et puis, il y a eu la réalité de l'hémicycle, c'est-à-dire Yannick Jadot qui l'apostrophe, on va l'entendre dans un instant. Il s'est retrouvé un peu piégé ou pas, le président ?
C'est vrai que c'était une intervention en deux temps, vous avez raison, un discours de haut niveau. Une vision très sombre, j'ai trouvé, quand même, de l'Europe. Hein. C'était plus la Sorbonne du début du oui. mandat. Hein. C'est une vision assez sombre, j'ai trouvé. Et donc, un discours de président français en exercice de l'Union, du Conseil de l'Union européenne. Évidemment, derrière, on a eu le droit au débat franco-français. Mais c'était écrit d'avance, puisqu'en fait, on avait l'équivalent d'une séance de questions-réponses à l'Assemblée nationale, ce qui ne peut pas avoir lieu, puisque le président de la République ne peut pas se rendre à l'Assemblée. Donc, on l'a eu au Parlement européen de Strasbourg. Alors, ça, évidemment, à 80 jours du premier tour de la présidentielle, c'était un peu surréaliste. Je pense que le spectacle donné par la France, la présidence française, ben qu'on y est pour rien, mais il se trouve qu'on a choisi de mettre la présidence pendant les 6 premiers mois, on a décidé de pas la décaler. Ben forcément, on ne peut pas éviter ce genre de situation, puisqu'il y a le jeu des questions-réponses. Alors c'est dommage, parce que par le passé, parfois, il y a eu des interpellations de présidents français. Je me souviens d'une intervention de Daniel Cohn-Bendit interpellant Nicolas Sarkozy il y a quelques années. Ça avait donné lieu à un débat de fond. Là, évidemment, c'était un débat politique. Il a été rattrapé par la présidentielle. À l'arrivée, j'ai l'impression que c'est bon pour personne. Ni pour le président, ni pour ceux qui l'ont interpellé.
Jeannette Bougrabe. C'est votre sentiment aussi ?
Oui, moi je pense qu'on n'a pas donné un très bon spectacle à nos amis européens de la conception qu'on avait de l'Europe, et que c'est souvent qu'un marchepied pour faire de la politique nationale. Et ça, c'est dommage. Le discours du président, moi je l'ai trouvé très construit en fait. Mais en même temps, c'est dommage, parce que si il était primo candidat, ça aurait été intéressant, mais il avait 5 ans pour mettre en œuvre, ou en tout cas faire un début de réaliser un début de ses propositions, sachant qu'il a quand même beaucoup de chance, parce qu'il bénéficie de la maturation d'un certain nombre d'idées qui ont été avancées aussi bien par Nicolas Sarkozy ou encore Jacques Chirac sur la nécessité d'avoir une politique industrielle commune. Enfin, ça commence à imprégner auprès des instances européennes la nécessité de la réindustrialisation, l'importance de définir une politique européenne en matière d'industriel. Et en même temps, quand je l'écoute sur la politique de la défense, je suis quand même un peu surprise, parce que Yannick Jadot aurait pu lui répondre immédiatement, mais ce que vous dites n'est que du vent, parce que la preuve en est, c'est que Joe Biden parle directement à Vladimir Poutine sur l'Ukraine. C'est-à-dire que sur les questions qui concernent l'Europe n'est même pas à la table des négociations. Sur l'Europe de la défense, je suis désolée, c'est qu'un rêve français depuis 1954 qu'on a sabordé, et en réalité, quand on voit ce qui se passe dans le nord de l'Europe, ils veulent adhérer à l'OTAN, ils n'ont pas envie d'adhérer à une Europe de la défense. Donc c'est la vision d'un chef de l'État, de la France, qu'il exprime aux autres États sans véritablement les consulter. Oui.
C'est vrai que l'exemple de l'Europe de la défense, moi je suis journaliste politique pratiquement depuis qu'on en parle, c'est-à-dire le Jacques Chirac à Saint-Malo, qui a fait un déplacement pour évoquer un peu le début, l'embryon de l'Europe.
Ça ne rajeunit pas.
Il ne sait rien. On envoie quelques soldats, les Allemands, pour aider au Mali, mais il ne passe rien.
Ça, on n'y arrive pas. Parce que regardez au Mali, vous en parlez, c'est les mercenaires de Wagner, c'est les mercenaires russes. C'est-à-dire que la France, là-dessus, parce qu'il n'y a pas que la France au Mali, n'a pas été capable, en tout cas, de relever les défis. Et quand on voit, c'est la question du matériel, et ça c'est important, que ce soit la Finlande a fait le choix des avions américains. Donc cette partie de l'Europe croit encore au bouclier américain et non pas au bouclier européen.
Louis Dragnel, alors sur ces questions-là, je le sais.
Non, mais vous avez raison. Et de fait, le bouclier américain, depuis de nombreuses années, a toujours montré qu'il était plutôt plus efficace que le bouclier européen. Et en fait, non, mais ce qui se passe, c'est qu'il va falloir accepter l'idée, l'Europe de la défense n'existera jamais. En fait, l'Europe de la défense, c'est quoi ? C'est l'armée française. Et il y avait, à l'époque, avant le départ de la Grande-Bretagne, il y avait deux armées un peu puissantes. Il y avait l'armée française et l'armée britannique. Depuis le départ de l'armée britannique, on est les seuls, et d'ailleurs, on est les seuls à disposer toutes les capacités nucléaires. L'exemple du Mali que vous citez est très intéressant, mais ça montre aussi, c'est l'illustration du fait qu'il n'y aura jamais d'Europe de la défense, parce que on voit bien que tout ça est lié aussi aux histoires des pays. Nous, on intervient essentiellement dans nos anciennes colonies, des anciens protectorats, des zones d'influence dans lesquelles on était très présents, et je pense qu'il y a plein de pays qui n'en ont rien à faire d'intervenir au Mali, parce qu'ils se sentent absolument pas concernés par cette histoire.
Est-ce qu'ils auront envie d'intervenir en Ukraine ?
Ah bah, je pense que oui. Ah bah,
mais est-ce que l'Ukraine, c'est l'Europe ?
Non, mais il y a des pays, là pour le coup, proches des Balkans, et tout, qui pour le coup, il y a une importance vitale à se défendre. Et il suffit de voir, après on peut rentrer dans un débat sur la militarisation des pays, mais par exemple l'armée allemande est conçue pour, depuis la chute du rideau de fer, conçue pour résister à l'Est. C'est, y a beaucoup de troupes à pied, c'est des chars, et c'est des troupes qui sont habituées en fait à s'entraîner sur des plateaux. Or, nous, par exemple, on a encore l'infanterie de marine qui est avec une capacité de projection en Afrique. On a la brigade parachutiste. Il y a toute cette logique qui est liée, en fait, à notre histoire militaire, notre histoire tout court. Et ça, pour le coup, on pourra rien faire contre. Et on n'empêchera jamais un pays de l'Union européenne d'aller intervenir dans une ancienne colonie ou dans une zone d'influence dans laquelle ce pays-là a des intérêts. Pour revenir, sinon...
Pour revenir au sujet de la politique nationale qui nous intéresse, on va faire une toute petite pause.
Allons-y.
Et je vais vous donner la parole dans un instant. À tout de suite dans Punchline sur Europe 1.
Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari.
On se retrouve dans Punchline avec Jeannette Bougrabe, avec Louis de Ragnel et Bruno Jeudy. On va écouter Jordan Bardella, l'un des opposants à Emmanuel Macron, qui a pris la parole tout à l'heure dans l'hémicycle à Strasbourg pour tenter encore une fois de lui planter des banderilles. Écoutez.
Monsieur le Président de la République, comment pouvez-vous prétendre aujourd'hui en rassembleur en Europe alors que vous aurez été jusqu'au bout le diviseur de la France ? Préférant à l'unité du pays la concurrence généralisée et donc la guerre de tous contre tous. Vous vous êtes comporté comme un liquidateur à la tête de l'État français. Vous aurez minutieusement joué au casino avec l'industrie française, bradée à des puissances étrangères et dont Alstom restera à jamais un symbole de trahison des intérêts nationaux. Vous aurez laissé l'État être contesté dans son autorité, la nation affaiblie dans sa souveraineté, le peuple attaqué dans son identité et dans ses libertés. De vos promesses d'un monde nouveau, il ne restera que vos brimades, vos humiliations, votre cynisme et votre mépris qui auront contribué à rendre le peuple triste, à affaiblir sa force vitale, à le faire douter de l'avenir, à le faire douter de lui-même.
Là pour Jordan Bardella du Rassemblement National, réponse cinglante d'Emmanuel Macron, non, les Français ne sont pas tristes et surtout, vous avez dit systématiquement n'importe quoi, Louis de Ragnel. Il disait ça à Jordan Bardella, bien sûr. C'est un tort de se saisir encore une fois de la parole pour... juste faire des punchlines contre le président.
Moi je trouve, enfin c'est un tort. Et en fait cette séquence, elle était voulue, elle a été conçue à l'Élysée, hein, parce que rien n'obligeait Emmanuel Macron à se prêter à ce jeu de questions-réponses. Rien n'obligeait à ce que il y ait par exemple les responsables de groupes politiques européens, français, à s'exprimer en premier, parce que ça vous a pas échappé. Mais il y a eu un concentré d'interventions de français dès la fin du propos liminaire du président. Donc tout ça a été conçu par Emmanuel Macron parce que ce qu'il voulait en fait, c'était lui utiliser la hauteur que lui donne, enfin c'est vraiment dans la tête des stratèges à l'Élysée. Il voulait utiliser la hauteur que lui donne le statut de président du Conseil de l'Union européenne pour répondre justement à des questions. Il savait à l'avance que tous ses opposants français allaient le challenger sur de la politique intérieure. Et lui voulait, d'ailleurs, si on regarde l'enchaînement de ses réponses, au début, il répond en prenant un peu de hauteur et c'est à la fin qu'il tacle à la fois Madame Aubry pour la France Insoumise, Monsieur Bardella, et puis Yannick Jadot. Et donc tout ça donne c'est un spectacle un peu pathétique parce que c'est un sujet uniquement franco-français et si vous voulez, en regardant ça, en écoutant ça, moi j'ai pensé en fait à un eurodéputé letton ou espagnol, je me suis dit mais... qu'est-ce qu'il doit se dire en écoutant, en assistant à ces échanges?
Je pense qu'il ne se sent... politique peut-être, ce député...
Oui, mais il ne se sent absolument pas, je pense, concerné par cette présidence française. Et d'ailleurs, si on prend un tout petit peu de recul, j'ai essayé de me souvenir, est-ce que j'ai déjà regardé un discours de prise de fonction d'une présidence de l'Union européenne, à l'exception de président français? Eh bien, ça ne m'est jamais arrivé, et je serais incapable de vous citer les quatre derniers présidents de l'Union européenne.
Et j'ai bien peur que ça n'intéresse pas non plus beaucoup les Français, Bruno Jeudy.
Non.
Ça ne va pas passionner les foules.
Non, ça ne passionnera pas les foules. Mais ça, pour le coup, je pense que Emmanuel Macron en est bien conscient, ses conseillers aussi, et puis les autres partis aussi. C'est vrai que cette opération était conçue pour essayer de créer et mettre en valeur le président de la République. Cette séance de questions, à mon avis, a tourné... aigre, le style relâché de certains intervenants. Jeannette Bougrat parlait de Manon Aubry, la façon de parler, de s'exprimer, c'est quand même pas non plus très.
C'est
assez désespérant parce qu'on voit que là, ils parlent du président dans des termes. Ça, c'est quand même. Ils sont au milieu d'élus des autres pays européens et là, on nous donne.
Il y a beaucoup de chaises vides quand même. Je sais pas si vous avez regardé.
Oui, mais il y avait la jauge, donc du coup, le Parlement n'était pas plein. Ça offre une image qui n'est pas terrible. C'est pour ça que l'opération, à mon avis, n'est bonne pour personne, pour le président, pour les opposants et surtout pour certains opposants qui ne se sont pas grandis dans cette affaire.
Janine Droit, il y avait pourtant de grandes idées dans ce qu'a dit le président. Il veut notamment inscrire le droit à l'avortement dans la charte, c'est ça, européenne?
Oui, je pense que c'est en hommage aussi à la date anniversaire de cette loi avec le courage de Simone Veil, en fait. Donc je pense que c'était ces derniers temps, on a vu le président de la République beaucoup s'investir sur les questions d'égalité, de questions de protection, de lutte contre les violences faites aux femmes. L'idée est évidemment intéressante, mais on sait très bien qu'elle va bloquer au niveau des États comme la Pologne ou la Hongrie. Donc, cette idée qui peut séduire une partie, en tout cas de l'électorat féminin, et en se disant effectivement, compte tenu des attaques, on a vu ces manifestations en Pologne, ça peut être effectivement un gage de protection pour ces femmes, de la liberté de disposer de leur corps, mais on sait pertinemment, compte tenu des règles de fonctionnement de l'Union européenne, que ça a peu de chances, en réalité, d'aboutir. Mais en tout cas, c'était le fait d'en parler, le fait de le dire, eh ben je pense que c'est un message fort à l'endroit de ces femmes qui, au sein de l'Union européenne, voient en fait ce droit menacé, y compris d'ailleurs en France, puisque certaines femmes n'arrivent pas toujours nécessairement à se faire...
Puis symbolique aussi avec la nouvelle présidente du Parlement européen qui...
Maltaise.
Qui a une position évidemment orthonale par rapport à celle
exactement.
Du
donc président
de la
République. C'était un signe, je pense, important de le dire. Et puis sur les questions environnementales, c'était aussi intéressant, même s'il y a déjà un article 37 dans la charte de l'Union, il y a déjà la protection de l'environnement, donc c'est en tout cas des gestes importants.
Louis Dragnel, on voit quand même sur cette séquence que le président, qui n'est toujours pas candidat, va de plus en plus de mal, en fait, à s'exprimer sans qu'on le ramène, évidemment, à cette candidature. Il faut qu'il se déclare rapidement candidat ou pas?
Moi, je pense que dans son intérêt, je ne vois pas pourquoi il se déclarerait très tôt. Ensuite, il ne faut pas non plus se déclarer trop tard. Enfin, c'est vraiment une réponse de Gascon. Mais si vous voulez, mine de rien, le fait d'être encore président en fonction lui permet au moins de montrer qu'il continue à gouverner jusqu'au dernier jour, comme il l'a dit, et il joue un peu là-dessus. C'est-à-dire que il va être très difficile, même pour nous journalistes, parfois de voir si c'est le président de la République en fonction qui s'exprime, ou alors si c'est le candidat. Et Emmanuel Macron, depuis le début de cette drôle de campagne, comment
c'est si, pas très non, mais
alors pour répondre à votre question, c'est tout le temps des déplacements de candidats. Voilà. À partir de maintenant,
voilà. Non, mais depuis Marseille, la rentrée, ce ne sont que des déplacements de candidats.
Non, mais je suis d'accord avec vous. Mais après, le système, c'est pas pour ou contre Emmanuel Macron, mais le système est ainsi fait et je vois pas très bien comment on pourrait le changer. À chaque élection de président sortant qui est candidat à ses réélections, ça avait été le cas pour Jacques Chirac, ça a été le cas pour Nicolas Sarkozy, pas pour François Hollande, mais à chaque fois on a les mêmes débats et en fait je en réfléchissant, en creusant un peu le sujet, je vois pas du tout comment on pourrait trouver une solution. Alors, même si je reconnais que je trouve que Emmanuel Macron joue là-dessus à outrance et se permet des choses que aucun de ses prédécesseurs ne se sont permis. C'est-à-dire qu'il met en scène le côté justement, je suis président et surtout je ne suis pas candidat, arrêtez de me poser ces questions, c'est vous qui êtes cynique, alors qu'en réalité c'est lui qui utilise ses fonctions pour être candidat. Et de l'autre côté, du coup j'attends de voir la mue le jour alors, où il décidera vraiment d'être candidat officiellement.
Il y a quand même dans l'histoire des différences quand même, Louis, objectivement. D'abord, les deux premiers qui se sont représentés, que ce soit Giscard ou Mitterrand, c'était en mars qu'ils se sont présentés, donc tardivement. Surtout Mitterrand, 22 mars.
Donc ils étaient
ensuite,
encore longtemps président candidat.
Les deux suivants, oui, ils étaient encore plus longtemps président, imaginez. Ensuite, les deux suivants, Chirac et Sarkozy, eux, ils ont avancé, sont présentés un mois plus tôt, février, le 11 et le 15.
On était en cohabitation, enfin, il y avait la cohabitation, donc c'était un peu...
Pas Nicolas Sarkozy. Chirac, oui, mais donc ils se présentent quand même assez tôt, parce qu'ils sentent bien qu'il faut partir et qu'on peut plus... La communication a changé, les campagnes présidentielles ont changé, donc on voit bien déjà que deux avaient tiré les leçons. Alors, Alors ça a marché pour l'un, pas pour l'autre. Et donc là, moi je crois d'abord, la campagne est plus courte, je rappelle, 15 jours de moins par rapport à la campagne dernière. Donc Emmanuel Macron aujourd'hui, en fait, nous serions déjà fin janvier. C'est pour ça que moi je vous dis, Emmanuel Macron, je pense, va démarrer plus tôt qu'on ne le dit aujourd'hui.
On parle de mi-février, vous pensez que ce sera avant ?
Mi-février, c'est la borne. Gabriel Attal vous explique en privé que le 15 février, c'est la borne. Ce sera avant les vacances de février. Voilà, pour faire simple. Donc, une fois qu'on a dit ça, ça se passe quand ? Moi, je regarde plutôt ce qui se passe aujourd'hui dans la campagne. Emmanuel Macron ne fait pas une... La majorité et Emmanuel Macron ne font pas une très bonne rentrée quand on regarde les choses politiquement. Ça se passe pas si bien que ça. L'affaire des lecteurs du Parisien, ils sont tous à l'Élysée, ils disent ça y est, on a amorti le coup. Moi, je pense que les emmerdes, c'est un poison lent, c'est pas terminé.
La petite phrase.
Oui. Blanquer, les vacances, le protocole, c'est pas terrible non plus. Dans les intentions de vote, il baisse un petit peu le président.
Mais ça reste quand même relativement stable dans votre
sondage quotidien. Il reste favori, il n'y a pas de problème. Mais enfin, il vaut mieux quand même. Quand vous commencez à baisser, à un moment, il faut peut-être refaire quelque chose. Et ça s'appelle se lancer en campagne. Parce que démarrer tard, c'est aussi du mépris, c'est aussi de l'arrogance par rapport aux autres candidats, par rapport aussi aux Français qui ne sont pas dupes. Ils voient bien que le président n'est plus le président, qu'il est le président candidat et bientôt totalement le candidat. Donc, à mon avis... Je pense qu'il démarrera début février ou plus tard.
Il a sans doute un petit peu intérêt parce que là, donc, une grève s'annonce à nouveau dans l'éducation nationale. En tout cas, il y a quand même des contestations, une cristallisation. Cette crise sanitaire qu'on croyait très bien gérée, en tout cas, voit un petit peu ses limites. Et que ce soit les parents, les professeurs, on voit les couacs, on voit un Premier ministre venir lui-même annoncer des annonces, venir au ministère. Et donc, c'est pas si évident que ça parce que c'est... Ceux qui ont joué le jeu de la vaccination, ceux qui ont fait... là, ça commence à faire beaucoup. Et par exemple, je regardais le coût en fait, des autotests. Hein, donc en gros, ça va coûter plus d'un milliard.
En réalité, au mois de janvier.
Au mois de janvier.
Pour un mois.
Donc ça va être un peu plus. On se dit peut-être que cette gestion-là, ça sera mieux qu'elle aurait été donnée à l'hôpital directement, alors qu'on sait que les enfants sont asymptomatiques. Sur la question de l'énergie, parce qu'effectivement, le prix de la borne, le prix de l'essence à la borne est très élevé. Sur la question de l'électricité, c'est-à-dire une hausse de 44%.
Donc ça lissé fait... grâce à l'action du gouvernement.
Oui, mais qui va moment être rattrapé dès la fin.
EDF qui sert quand même de banque gratuite au gouvernement.
Oui, parce rien n'est
quand même un
vrai sujet.
C'est un vrai sujet.
Donc, on s'est occupé du gaz, mais là, c'est l'électricité. Donc, les sujets vont devenir de plus en plus difficiles. Et donc, moi, je pense qu'il a intérêt de prendre des décisions très fortes, parce que sinon, effectivement, il va y avoir une cristallisation, pas type gilet jaune, mais une opposition sur les questions de pouvoir d'achat.
Ok, on fait une petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline et on parlera de ce qui se passe à gauche. Alors vous m'éclairerez sur ce qui se passe de côté de cette primaire populaire que Jean-Luc Mélenchon attaque parce qu'il ne veut pas être candidat alors qu'il l'est de facto. Et puis on parlera d'Arnaud Montebourg qui se retire de la candidature. A tout de suite.
Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
Dans Punchline avec Louis de Ragnel, Jeanne Beaugrave et Bruno Jeudy, on va parler un tout petit peu de ce qui se passe à gauche quand même parce qu'on parle beaucoup de ce qui se passe chez Emmanuel Macron et à droite. Arnaud Montebourg s'est donc retiré de cette candidature, écoutez, avec les mots et la grandiloquence qui lui sont habituels.
Je suis venu ici, à Bibracte, sur cette terre qui m'est chère. Vous dire que je n'ai pas réussi à unir dans un programme commun ma candidature à d'autres candidatures, et ce malgré mes efforts et l'engagement de mon équipe. J'ai engagé une franche discussion avec tous les candidats appartenant à ma famille politique, mais aucun n'est décidé à surmonter nos désaccords. Le moment est donc venu pour moi, en homme libre, absolument libre, de vous dire que j'ai pris la décision de me retirer de la course présidentielle. J'ai décidé de ne soutenir aucun candidat, puisque ces perspectives tracées pour le pays ne sont pas partagées.
Bon, je dis, sur ce grand moment de...
Arnaud Montebourg raccroche donc, puisqu'il n'a pas réussi à joindre... vous savez, c'est un truc à effrayer tout le monde. Il a appelé les candidats, personne ne lui répondait. C'est un sacré comédien quand même. Hein. Il aura au moins une touche de, il a un peu de sourire dans un paysage à gauche qui est complètement
chamboulé.
C'est un champ de ruines. C'est une morosité à tous les étages. Et donc il se retire. J'allais dire c'est presque un non événement. Il était à 1% dans la dernière mesure qui le concerne. Et pour les autres, c'est pas terrible non plus. Fabien Roussel ferait une bonne campagne, formidable. Il est à 2
Alors, il a réussi.
Non, mais je suis d'accord. Très bien. Mais il est
ça reste
à
epsilon.
Il est à c'est deux. Rien. Alors que
c'est pas voilà, un phénomène
après,
politique.
Après, si on continue, si on fait l'inventaire, elle est à trois, Anne Hidalgo. C'est complètement surréaliste. Enfin, je veux dire, le PS, c'est vraiment un parti qui s'est recroquevillé, qui s'est sectarisé et qui se réduit maintenant à trois points, la moitié du score de Benoît Hamon aujourd'hui. Ça peut peut-être progresser. Et Christiane Taubira, qui elle est à 4, on continue, on monte.
Après, Yannick
Jadot à 5.
Et Jean-Luc Mélenchon.
Et il y a Jean-Luc Mélenchon qui, effectivement, aujourd'hui, est celui qui tire son épingle du jeu. Finalement, sa constance, alors à détruire le Parti Socialiste, hein, ça, il faut le reconnaître, mais aussi, finalement, à avoir peut-être un programme très à gauche. Le crédite aujourd'hui, finalement, les gens de gauche qui veulent encore voter à gauche, apparemment, ils ont plus envie de voter pour Jean-Luc Mélenchon. Et on commence à voir certains élus qui se disent « Bon, bah, si c'est Mélenchon, c'est Mélenchon. » Mais on voit bien surtout que la plupart des gens de gauche, ils sont en train de se dire « Bon, bah, pour 2022, c'est cuit. » Il y a les raisonnables qui vont se dire « On va voter Emmanuel Macron. » 27% quand même des sympathisants socialistes disent vouloir voter pour Emmanuel Macron. Et puis les autres, bah, ils s'abstiendront.
Bon. Louis Dragnel.
Je lisais ce matin un commentaire qui dit « Terminado, la remontada », et je trouvais ça assez drôle.
La renonciada aussi.
Ouais, exactement, la renonciada. Je trouve qu'il y a un côté assez pathétique, parce qu'on savait tous que, même lorsqu'il s'est déclaré, on savait tous qu'Arnaud Montebourg n'irait pas jusqu'au bout.
Je crois qu'il y croyait. Hein.
Ouais, mais, quand vous y croyez vraiment, vous levez des fonds, quand vous y croyez vraiment, vous essayez de trouver des parrainages, quand vous y croyez vraiment...
Je crois qu'il y croyait.
Il a vraiment essayé, mais le problème, c'est sa mégalomanie, le vrai problème.
Il y avait quand même cette logique de vouloir dealer. Il savait très bien qu'il n'irait pas jusqu'au premier tour, que c'était compliqué. Écoutez, moi je connais bien quelques-uns de ses proches.
Il a un peu d'argent,
Il a tourné des popotes, etc.
Je trouve que là où je rejoins Bruno, c'est que oui, c'est un non-événement politique, ça pesait assez peu. Je trouvais qu'il avait fait un bon début d'entrée en scène. Je trouvais que c'était intéressant. Il levait des sujets qui n'étaient pas forcément... qui était parfois un peu transgressif à gauche.
Le Made in France.
Son sujet était affreux, c'était la taxation sur Western Union, etc.
Je trouvais que, par exemple, sur les questions d'immigration, il avait un logiciel qui, justement, était plus, un peu différent du logiciel qu'on entend habituellement à gauche. Quand je voyais que, par exemple, il était en tractation pour essayer de se rallier à Christiane Taubira, c'était le grand écart, encore une fois, le grand écart idéologique. C'est incompréhensible pour tous les électeurs de gauche. Et donc, c'est là où je rejoins votre analyse, hein, Bruno. C'est que c'est un des symptômes de l'échec de cette gauche. Mais une gauche qui est à terre, et je vois pas tellement comment elle peut remonter, même après la présidentielle. La difficulté, si
à
vous voulez...
s'unir derrière Jean-Luc Mélenchon, ça...
Oui,
ça, il a quand même fait 18 la dernière fois. Hein,
vous voyez, quand la droite s'est effondrée, on voyait, il y avait des chapelles, on avait du mal à voir comment ils pouvaient s'entendre. Là, s'entendre humainement, c'est d'abord et avant tout des questions d'ego ou de personne. Là, quand on regarde les propositions au niveau idéologique, il n'y a que des lignes totalement irréconciliables, et il n'y a plus ce socle du Parti Socialiste dont parlait Bruno, et en fait ce sont des gens qui essentiellement vont sans doute voter pour Emmanuel Macron, et je crois aussi pour certains d'entre eux, pour Valérie Pécresse, avec un autre argument qui est la dimension, c'est peut-être la première fois de l'histoire qu'une femme accédera à la présidence de la République, et c'est un argument que moi j'entends par exemple autour de moi, on verra s'il est déterminant dans le vote.
Jeannette Bougrabe, sur l'état de la gauche.
L'état de la gauche ne pourra se relever que si elle construit en tout cas un projet, qu'elle débatte, qu'il y ait des idées. Et moi, je me souviens à une époque où il y avait des fondations qui étaient en fait des incubateurs d'idées. C'est vrai que la fondation Jaurès, on l'entend peu par rapport à la fondation de Dominique Régnier, où on reçoit des publications, ou même encore l'Institut Montaigne. Et quand on regarde ce qui s'est passé autre manche, quand les partis travaillistes s'étaient effondrés avant l'arrivée de Blair au gouvernement, c'est des think tanks qui ont travaillé pendant plusieurs années et construit un projet et des idées. Et moi, je crois qu'en réalité, ça ne peut pas être par des personnes qui seront des personnes providentielles, qui sont tous convaincus que sans eux, la France ne pourrait pas fonctionner, que Et donc, il faut sans doute laisser passer ce tour-là et se mettre au débat. Et voilà, il y avait la République des idées. Et c'est, on n'échappera pas à une refondation de la gauche sans avoir des think tanks qui seront là pour travailler, réfléchir, faire des propositions, regarder ce qui se passe ailleurs, comme ça a été fait en Allemagne et comme ça a été fait au Royaume-Uni.
Bruno Jeudy, sur cette primaire populaire, là, donc Jean-Luc Mélenchon décide de l'attaquer pour qu'on retire son nom de la liste des candidats. C'est bien ça ? C'est tout à fait ubuesque, en fait.
Ah oui, c'est ubuesque. Alors, cette primaire populaire, ça vaut le coup de s'y arrêter deux minutes parce que c'est quand même un truc. Alors là, ça aussi.
C'est quand même 300 000 personnes, hein, alors, c'est pas
grave. D'abord, 300 000. Oui, quasiment 300 000 personnes. Ça, c'est une initiative citoyenne, enfin, de militants de gauche qui veulent absolument cette primaire. Mais enfin, il faut voir comment elle fonctionne. C'est quand même ça qui est. D'abord, on peut être candidat contre son gré. C'est-à-dire qu'ils ont mis, effectivement, Mélenchon qui ne veut pas être candidat, Yannick Jadot qui ne veut pas être candidat, Anne Hidalgo qui, après avoir voulu être candidate, maintenant ne le veut plus. Donc, en fait, ils vont tous être mis dans le.
Ça, c'est démocratique.
Dans la primaire. Mais c'est quand même un truc de dingue.
Oui, on n'a jamais vu ça. Moi, je n'ai jamais
vu ça. Après, c'est pas un vote. C'est pas un vote, c'est une appréciation. Vous savez, c'est comme les smileys, là, vous voyez. J'aime pas.
Oui, c'est quasiment des codes couleurs.
Voilà. Vous avez aussi, alors ça, on le souligne moins, il y a un programme. C'est-à-dire que celui qui gagne, il a le programme.
Il est engagé par le programme.
Il n'a pas choisi le programme, il est engagé par le programme.
Et si c'est pour Christiane Taubira,
le programme, il faut le regarder quand même. Le programme, il faut le regarder deux minutes. Désarmement des polices municipales, abrogation des lois antiterroristes, j'en passe et des meilleurs. Au passage, des lois qui étaient votées sous Christiane Taubira. Hein, donc elle va embarquer en plus un programme qui est quand même juste l'inverse de ce qu'elle a défendu quand elle était ministre. Qui est quand même un programme qui fleure bon la gauchiste d'université, dessus d'étudiants, quoi. C'est un truc, mais ce truc, c'est... Ben, je comprends pas qu'on s'emballe de son enthousiasme pour cette primaire populaire.
Jean-Luc Mélenchon a raison. Tout à fait raison.
Enfin, oui, il a raison.
Il a raison, donc on va trouver un point commun, on va défendre Jean-Luc Mélenchon.
Ah oui, c'est assez étonnant. Mais...
En disant, mais c'est quand même... déni de démocratie, en fait, normalement.
Sous couverte de démocratie.
Oui, sous couverte de démocratie, mais ça prouve que la gauche est un peu égarée ces dernières années.
Il y a aussi Édouard Philippe, là, qui vient de clore l'incident de la fusion entre son petit parti et la Macronie. Là aussi, c'est une petite tempête dans un verre d'eau, Louis de Ragnel.
Ah non, je crois pas du tout.
Ah, c'était une grosse tempête dans un...
Ah oui, c'est qui n'est pas terminé. Qui n'est pas terminé, en fait, parce que...
Il revient, visiblement.
Il revient, oui, parce que, mais pour combien de temps, je sais pas. Ce qui se passe, c'est que depuis le départ d'Édouard Philippe du gouvernement comme Premier ministre, ses relations sont de plus en plus exécrables avec Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron a bien compris qu'en fait, Édouard Philippe prépare l'après 2022, l'après présidentiel, avec deux cas de figure. Le premier cas de figure, Emmanuel Macron est réélu. Et comme on ne peut faire que deux mandats, Édouard Philippe va se servir du prochain quinquennat pour constituer un groupe, pour être puissant et pour essayer de créer un tremplin pour lui-même se propulser en essayant de bénéficier de l'héritage d'Emmanuel Macron. Et donc, Édouard Philippe, s'il est dans cette logique-là, en tout cas, je sais qu'il l'est, l'objectif, c'est d'avoir un groupe assez puissant pour aussi être un, si vous voulez, faire en sorte que Emmanuel Macron ne puisse quasiment plus faire passer de texte sans l'aval d'Edouard Philippe. Alors, on n'en est pas encore là, parce qu'il faut quand même une élection législative avant, mais donc, il est vraiment dans cette optique-là. Et si Emmanuel Macron perd la prochaine présidentielle, eh bien, la configuration est à peu près la même, mais pas avec les mêmes moyens, et avec cette logique d'Edouard Philippe, qui, de toute façon, veut préparer la prochaine élection présidentielle. Donc, très sérieusement, ça va pas se rabibocher, leurs relations vont peut-être se réchauffer en façade. Puis la dernière chose, c'est qu'il y a une question aussi d'argent qui pose problème entre toutes les composantes de la majorité, avec le MoDem par exemple qui refuse de donner suffisamment d'argent pour la campagne d'Emmanuel Macron parce que eux considèrent que ils ont leur indépendance et qu'ils ont mais la tambouille en politique souvent, cher Bruno, la tambouille est révélatrice.
Je suis d'accord.
Du fond des désaccords
dans ce que vous dites. Je suis d'accord avec ce que vous dites, mais est-ce que vous imaginez l'auditeur qui nous écoute, là, il se dit, alors attends, donc Philippe prépare 27, veut déjà préparer, emmerder
Bruno,
Macron, réélu.
La politique, non, hélas, ce n'est quasiment que ça.
Ce que je veux
ça.
Dire simplement, c'est que le spectacle offert sur cette pour ceux qui regardent pathétique. Ça, même de loin, ça veut dire que Emmanuel Macron essaie de mettre des bâtons dans les roues d'Edouard Philippe, qui a été loyal comme Premier ministre, quand même assez difficile à comprendre.
Moi, ce que je trouve pas très élégant de la part d'Emmanuel Macron,
trouve ça vraiment très étonnant.
C'est qu'il y voit un candidat, un adversaire, c'est des rivalités.
Il n'est pas candidat en 2022.
Non, je suis d'accord, mais
2020,
il a besoin... Cette faiblesse qu'a Emmanuel Macron, c'est de refuser d'avoir des gens qui peuvent être éventuellement parfois plus brillants que lui. Voilà.
Bah vous venez d'expliquer le départ d'Edouard Philippe de Matignon.
Et donc, du coup, je trouve que pour la fusion de deux partis, de s'incliner devant une décision du chef de l'État, c'est un peu dommage. Je pense qu'Edouard Philippe devrait passer outre ce refus de l'Élysée.
Merci à tous les trois d'avoir participé à Punchline. On se retrouve demain à 18h sur Europe 1. Tout de suite, c'est Mouloud Achour pour Verben Underground. Bonne soirée sur notre antenne.
Europe 1, 18h-20h.
Punchline, Laurence Ferrari.